des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clotilde Seille, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois à cette émission des livres plein les oreilles, avec en première partie, vous savez que j'aime bien provoquer des rencontres, et bien cette fois-ci encore, je vais le faire en provoquant la rencontre entre une autrice et sa lectrice. Oui, maintenant mesdames, je dis autrice parce qu'il paraît que c'est un vieux terme qu'on avait oublié, comme une réalisatrice finalement. Alors maintenant, et ça c'est Claudia Larochelle qui m'a dit, faut qu'on dise autrice. Ok ma chère Claudia, je te suis aveuglément. Alors madame Colette Major-Maigreau sera ici et Marie-Josée Longchamp, sa lectrice, sera également de la partie. La plume de la première a donné naissance à l'héritage du clan Moreau et la voix de la deuxième a donné vie à ses frères Moreau, les aînés de cette famille attachante et à leur descendance. En seconde partie, tout aussi attachants seront nos deux chroniqueurs qui régulièrement vous invitent à vous glisser des livres entre les oreilles. Je veux parler de Gérald Cousineau qui nous plonge dans l'univers angoissant de Genki Kawamura, auteur de 2 milliards de battements de cœur, et Yannick Olassa qui va nous permettre de glisser dans le monde du voyeurisme, signé Alexandre Soublière, auteur de Armanita Virosa. Alors bienvenue à cette émission, vous savez que c'est la seule émission qui fait la promotion des livres audio en français dans le monde. Et je vous rappelle que nous avons une plateforme personnelle à Vues et Voix, il suffit de composer livreaudio.vuesetvoix.com. On va parler d'héritage. Il y a une chanson qui parle d'héritage, qui n'a rien à voir avec le livre de Madame Major-Maigreau, mais qui est une admirable chanson que j'adore. Ça s'appelle « Ton héritage » et c'est signé Benjamin Biolay.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie. Des feuilles mortes dans le vent qui poussent un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand, si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec ou sang. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage. Si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu
as peur du sommeil et que passe le temps. Si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang. Si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans. Et si tout se déroule jamais comme dans tes plans. Si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans.
Et je dois dire que tout le monde écoutait religieusement cette chanson de Benjamin Biolay, Ton héritage. Bonjour Colette Major-McGraw.
Bonjour Clotilde.
Même vous, hein, je pense apparemment, une chanson que vous ne connaissiez pas, vous aviez les yeux fermés, vous vous êtes laissé emporter par l'émotion. Hein.
J'ai déjà hâte de la réécouter pour écouter toutes les paroles encore.
Ah oui, hein, parce que...
C'est magique.
C'est exactement ça, c'est magique. Bonjour Marie-Josée Longchamp.
Bonjour Clotilde.
Alors, vous connaissiez toutes les deux avant, vous êtes devenues amies ou...
On vient de se rencontrer.
Vous venez de vous rencontrer.
On connaissait depuis toujours.
Alors, oui, c'est vrai.
Que je fasse, si vous le voulez bien, les présentations pour les auditeurs. Colette, vous avez signé L'héritage du clan Moreau, hein, qui est donc une série. Pour l'instant, il y a 2-3 tomes?
Deux tomes.
Yeah. Et vous, Marie-Josée, vous êtes la lectrice de ces livres-là. Donc, je disais, c'est bien vous qui les avez mis au monde, hein, Colette. Et puis, c'est vous qui leur avez donné vie, Marie-Josée.
Oui.
Alors, la rencontre est faite.
Bon, je me suis attachée à ces personnes.
J'imagine. Colette, avant qu'on parle vraiment du clan Moreau, j'aimerais qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec vous. L'écriture, c'est pas votre premier dada.
Non, pas du tout. C'est vraiment un projet de retraite. Ouais. Je savais pas que je pouvais écrire, simplement.
Ah oui,
Et puis, à un moment donné, je suis allée dans des ateliers d'écriture. Puis l'auteur, après 2 soirs, l'auteur qui donnait la formation a dit « Colette, il faut que tu écrives ». J'ai dit « Moi, j'ai pas fait de cours de littérature, j'ai pas fait d'université pour ça ». Elle dit « C'est comme la musique, c'est un talent brut et tu l'as ». Et j'ai commencé à écrire à ce moment-là.
Et j'aimerais alors qu'on fasse connaissance un petit peu avec ce clan. Le clan Moreau. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce clan Moreau? Pourquoi le clan Moreau, ce n'est pas le clan Dubois? Voilà, hein, par exemple. Qu'est-ce qui le rend si particulier?
Le clan Moreau, d'abord, ça se passe à Val-David, dans les Laurentides. Et puis, il y avait beaucoup de Moreaux dans cette région-là, partant. Et puis, c'est pour raconter une histoire de personnes vieillissantes. Et puis, j'ai décidé d'installer cette famille-là à Val-David, un lieu que je connaissais beaucoup, que j'aimais beaucoup, un beau petit village où les gens, c'est très, très familier, là. Et puis, c'est là que j'ai installé ma famille fictive, mais avec plein de choses que j'ai vécues à travers les gens avec qui j'ai vécu. Parce que dans ma vie, c'est drôle, mais il y a eu beaucoup de personnes âgées. Et j'ai toujours adoré les personnes âgées.
Ah oui.
Fait qu'à ce moment-là, c'est quand... Dans ma deuxième série, ça c'est ma deuxième saga, et puis j'ai décidé d'écrire vraiment comment ça se passe quand on vieillit, et puis vraiment donner les deux visions, parce que comme on a les deux frères, on peut vivre ça de différentes façons.
Ouais,
puis on voit vraiment une différence entre Hector et Raoul. Hector qui a des enfants et Raoul qui n'en a pas, mais Raoul a quand même une belle fin de vie, là, les dernières années de sa vie. Et ce Raoul-là en question, c'est basé sur un oncle qui m'a demandé à un moment donné... Alors, lui, il avait 90 ans, puis il m'a demandé si je m'occuperais de lui. Et pendant 4 ans, je me suis occupée de cet oncle-là, comme si ça avait été mon père, parce que j'avais plus mon père depuis très, très longtemps. Puis j'ai vécu tellement des beaux moments avec lui.
Ah oui.
J'avais plein d'informations.
Quel est le quotidien de cette famille-là? Au moment où on fait leur connaissance, ils ont quel âge?
C'est... Oui, ils ont tous au-dessus de 80 ans. Ils sont tous au-dessus de 80 ans.
Mais sauf la descendance, évidemment.
Oui,
mais vous parlez de ceux dont part l'arbre généalogique. Là.
Oui, eux autres, ils ont... Hector et Raoul ont, je sais pas, 87 ou 88 ans, je crois. Ouais. Et puis, mais je me souviens pas exactement, là. Je suis déjà sur d'autres choses, mais...
c'est ça, mais, les auteurs.
C'est ça, les auteurs.
C'est parce que dans l'ouvrage, il y a beaucoup de retours en arrière aussi.
Exactement.
C'est pour ça qu'ils ont, pour moi, à mes yeux... Ils ont différents âges, parce qu'on parle quand ils étaient jeunes, comment ils ont été éduqués à leur vie. Donc, ça s'entremêle.
Exactement. Puis, on a aussi leur sœur, elle est plus gros. Les gens m'ont tellement dit, quand va arriver le troisième tome qui aurait été Doris? Les gens attendaient d'avoir un Doris qui est leur sœur.
Bien sûr.
Mais on n'avait pas prévu de faire un livre là-dessus.
C'est qui ont et puis pourquoi?
Ah, bien, un peu les maisons d'édition qui demandaient qu'on ne fasse pas des sagas trop longues. Ah. Où, puis on a décidé d'arrêter ça à deux.
Mais vous continuez pas à trois?
Non.
Oh, que je suis déçue. J'attendais.
Écrivez à la maison d'édition, vite.
Mais oui, mais moi aussi, je veux dire, tout se fait par trois.
Mais tout le monde me le demande. Parce que Doris, c'est tellement un beau personnage. C'est tellement une belle dame, une belle famille.
Et colorée.
Colorée. Et mon petit Bruno là-dedans, là, j'aurais aimé continuer à faire vivre ces personnages-là. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura une demande un jour.
Et la descendance?
La descendance.
Oui. Est-ce qu'on se tire dans les pattes entre cousins? Est-ce qu'on s'aime bien? Est-ce qu'on s'aime pas? Ils sont sûrement. Eh ben, je le sais pour l'avoir lu, mais je veux pas trop le dire. Mais enfin bon, il y a des gens quand même différents. Oui. Monique a rien à voir. Elle est pas très aimée. La Monique.
Il y a toujours un personnage plus noir, hein. Et puis c'est la Monique. Mais les enfants de Doris sont très attachants. Je trouve c'est une belle famille. Et puis, ils sont très près de leur mère. C'est plaisant de les voir vivre, là. Puis, en même temps, ils sont attachés à leur oncle parce qu'ils savent comment c'est important pour leur mère. Mm-hmm. Tu sais, que leur oncle soit bien, puis tout ça. Oui. Fait qu'on voit que c'est vraiment une famille plutôt unie.
Est-ce qu'il y en a par l'appât du gain, de l'argent, tout ça?
Ben oui, c'est sûr.
C'est sûr. Ben oui.
Et étrangement, c'est parce que je l'ai vécu qu'à un moment donné, ces gens-là, ils sont tellement... Quand mon oncle m'a demandé de m'occuper de lui, c'était un peu pour ça. C'est qu'à un moment donné, quand tu as des sous, tu as des demandes. Tu as des demandes pour... c'est pour une nièce, c'est pour une autre, c'est pour une autre. Et les gens sont fins. Les gens, tu sais... Puis il était pas capable de dire non. Puis à un moment donné, il m'a amené chez le notaire puis il a dit, je veux qu'elle signe partout, comme je dis dans le livre. Et puis à ce moment-là, si quelqu'un allait le voir, il disait... Non, c'est plus moi. J'ai plus d'argent. C'est Colette qui s'en occupe.
Donc, vous êtes le personnage de la nièce qui s'occupe de lui.
Je suis un peu la Dominique, effectivement.
Dominique, je cherchais son prénom, c'est ça, Dominique.
C'est Jean-Guy qui la trouve bien de son goût. Il dit, j'aurais aimé. Si vous me le permettez, je vais me tourner vers Jean-François, qui fait comme Manon ici, qui pèse sur le piton, et je vais lui demander, on va écouter un petit extrait. On fait un retour en arrière, on est dans la maison de la grand-mère.
La maison de la grand-mère était le lieu de rencontre de la famille Moreau et, pratiquement chaque jour, des visiteurs se pointaient. Les oncles, les tantes, les amis et parfois de simples connaissances du village s'arrêtaient chez la vieille femme qui demeurait là depuis près de 60 ans. On s'y sentait à l'aise et jamais on avait l'impression de la déranger. Les enfants étaient toujours curieux d'entendre ces adultes raconter mille et une histoires d'une époque qui leur paraissait si lointaine. Ils appelaient ça le bon vieux temps, celui durant lequel les gens n'avaient pas d'électricité, pas de toilette dans la maison et surtout pas de téléviseur. Les jeunes ne pouvaient concevoir que ces personnes aient vécu toutes ces années sans les nouvelles technologies. Aujourd'hui, chez Doris, c'était beaucoup plus calme qu'à l'habitude, probablement à cause de la mauvaise température des jours précédents. Je te dis que dans notre temps, ça prenait pas une semaine pour nettoyer les chemins.
J'adore. Refrain connu. Oui, j'avais choisi cette petite.
Ben
oui, j'avais choisi ce petit côté belle époque, comme ça. Le charme suranné de l'aiguille. Marie-Josée Longchamp, avant qu'on parle avec vous de votre rôle de lectrice, je voudrais me retourner vers Colette. Est-ce que vous savez que Marie-Josée est une artiste accomplie, hein?
Ben oui.
Comédienne, c'est chanteuse. Sûr. Et vous avez tourné, ça tourne encore, Marie-Josée, un spectacle des chansons de Raymond Lévesque.
Oui, j'ai depuis plus de 9 ans, j'ai créé un spectacle d'abord de poésie et de monologue de Raymond Lévesque et se sont ajoutées avec les années des chansons de Raymond Lévesque.
Wow. Eh bien, permettez qu'on en écoute une.
Je fais un spectacle le 1er juin bientôt, là.
On va avoir tout le temps pour le redire et le re-redire pour que les gens le notent bien dans leur agenda.
Ça me fait plaisir.
On va écouter une chanson de votre album.
Douce fée des histoires, ramenez-moi le temps perdu, car j'ai plein la mémoire des beaux jours révolus. Douce fée des récits qui charmèrent mon enfance, je voudrais aujourd'hui, comme aux premières vacances, écouter vos bons contes, chaboter Cendrillon, mais pour ça que l'on remonte jusqu'au seuil de la maison. Douce fée des histoires, ramenez-moi le temps perdu, car j'ai plein la mémoire des beaux jours révolus. Mais vous n'osez pas, car vous savez bien que si je retrouvais le joyeux soleil des premiers matins, jamais je ne pourrais quitter tout cela pour m'en revenir au temps de maintenant et laisser là-bas ces beaux souvenirs regrettés si longtemps. Douce fée des histoires, ramenez-moi le temps perdu et vous pouvez me croire. Si je ne revenais plus, qu'est-ce que cela changerait dans le monde, dans le temps? Et la terre tournerait toujours aussi bien qu'avant. Si ce n'est pas honnête pour mes frères humains, je vous jure sur ma tête qu'ils n'en sauront jamais rien. Douce fée des histoires, ramenez-moi le temps perdu, car j'ai plein la mémoire des beaux jours révolus.
Je n'ai pas pu m'empêcher de chantonner un petit peu sur vous. C'est ouais. tellement agréable à entendre.
Ouais.
Et c'est très doux. Hein? C'était ouais. moins doux que ça, chanté par Pauline. Hein?
C'était différent. C'est une autre époque parce qu'elle avait une énergie différente, une sorte de stress qui faisait partie de sa personnalité. Mmh. Elle était très liée à Raymond Lévesque, ça c'est sûr. Mais elle a reconnu plus tard que c'est vrai qu'elle n'avait pas tout à fait écouté ce qu'il lui avait suggéré de faire avec la chanson. Mais moi, c'est un honneur pour moi parce
ben oui.
qu'il m'a demandé de la chanter. Et puis, c'était difficile.
Comment refuser? Comment
mais
refuser
ça me va tellement bien.
Mais oui,
là,
oui c'est sûr dans
oui,
la douceur.
Oui, je la sens. Il faut sentir une chanson. Mm-hmm. Mais on peut aimer quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de l'interpréter comme on le souhaiterait.
Marie-Josée, du plaisir à chanter, du plaisir à déclamer, à nous lire de la poésie de Raymond Lévesque. On sait que c'est quelque chose que vous faites merveilleusement bien. Ah, lire les livres des autres, d'après vous. Alors, c'est un art.
Écoutez,
est-ce que vous aimez faire ça?
J'adore faire ça. Et j'ai tellement de peine. J'attendais que vous me disiez aujourd'hui comme cadeau que le tome 3 était sur la table quasiment, là, tu sais, d'héritage du clan Moreau. Moi, ça fait des années que je lis des livres. Il faut bien comprendre que les livres que je lis, c'est à première vue.
Oui.
Je les ai pas eus chez moi avant.
Non, non.
Je les lis pour la première fois. Là.
Okay.
Alors, on reprend si on fait des grosses erreurs. Donc, il faut vraiment se concentrer, s'imprégner. Et ce qui m'a frappé, donc, pour revenir à vous, parce que c'est vous qui êtes le sujet principal de cette émission, c'est que je me suis vraiment attachée sans voir ça venir.
Okay.
Parce que je me suis dit au départ, oh, les vieilles personnes, moi aussi, j'avais de la famille dans le Nord, à la Belge, j'ai de la famille à Sainte-Agathe, mon père vient de l'Abitibi. J'avais l'impression que c'était comme la vie ordinaire.
Oui.
Mais dans la vie ordinaire, il y a plein de choses étonnantes.
Exactement.
Et tout à coup, je me suis mise à aimer tellement les personnages que là, j'ai de la peine de savoir qu'il n'y aura pas de tome 3. Alors, j'ai adoré donc. Mais la difficulté que j'ai comme lectrice, la commande qu'on a comme lecteur, ce que je fais depuis plus de 6 ans maintenant, c'est que en tant que comédienne, il ne faut pas que je joue vraiment comme si j'étais, par exemple, à la télévision ou même dans un radio-roman, parce que à l'âge que j'ai, imaginez-vous donc, que j'ai souvent vu des personnages dans des radio-romans quand j'étais adolescente.
Okay. Donc, c'est vrai, vous en avez fait, ça, du radio-roman, parce qu'on recevait Béatrice Picard, ou en tout cas, on va la recevoir, je ne me souviens plus, je suis en train de me mélanger un petit peu dans mes...
Béatrice,
et puis on parle, évidemment, parce qu'à une grande époque, ça faisait vivre les comédiens.
C'est parce que le personnage, par exemple, dont on me parle tout le temps, comme si j'avais joué juste ça, mais c'est pas négatif, mais Jeannine Jarry dans Rue des Pignons, c'était d'abord une émission de radio, et Jeannine Jarry, c'était Béatrice Picard.
C'est
amusant. Alors, donc,
mais c'est pas pareil. Alors, c'est parce que là, c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. On est, comme je le disais avec Michel Keble aussi, qui est un autre lecteur, on est plus dans la suggestion d'émotion.
C'est tout à fait ça.
Que dans le théâtre.
Tout à fait.
C'est fatigant à entendre. Si on se met à jouer.
Oui.
Quand j'écoute le livre, parce que j'ai fait faire des copies CD de ça pour écouter dans ma voiture, je veux toujours m'améliorer. Moi, je suis une perfectionniste pour toute la vie. Je ne suis jamais tout à fait satisfaite à 100% de mon travail. Mais le défi, c'est de respecter votre écriture. C'est-à-dire que si dans un dialogue, vous dites, c'est marqué, je me suis fait très mal. Je ne peux pas dire, moi, en tant que lectrice, je me suis fait mal. Faut que je suive qu'est-ce que vous avez écrit.
Mais oui,
je me suis fait très mal. Mais par contre, il y a des personnages qui parlent plus joual, plus gros québécois, d'autres en parfait québécois français. Vous avez le personnage de Xavier, vous marquez au début de votre livre qu'il a toujours gardé son accent français.
Oui.
Qu'à un moment donné, je parlais québécois comme ça. Ah non, c'est Xavier qui parle. Alors, mais qu'est-ce que tu fais, mon pote, là? Parce que lui, il dit pas qu'est-ce que tu fais, mon pote, là. Il dit qu'est-ce que tu fais, mon pote, là. Alors, le défi est intéressant. Mm-hmm. Et quand c'est un enfant, la même chose.
Et quand vous les écriviez, Colette, vous-même, vous aviez cet accent-là dans la tête,
Xavier?
Oui, définitivement. Il avait son petit accent pointu?
Vraiment, je le voyais. Je le voyais comme un Français, c'est
ça. Donc, vous avez aimé qu'est-ce que j'ai fait?
Oh, j'ai adoré.
Oui.
Adoré.
Colette, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices que je reçois ici qui me disent que, c'est le cas par exemple de Louise Tremblay-Desciambre, que lorsqu'ils écoutent leur littérature, ça change leur façon d'écrire après. Est-ce que ce sera un peu votre cas ou pas?
Je ne le sais pas vraiment. Je ne sais pas parce que c'est tout nouveau pour moi là, que cette série-là soit en audio. Mais j'ai hâte de voir.
Je voudrais d'ailleurs préciser qu'évidemment, si elle se retrouve en version accessible, adaptée au SQLA, elle est également maintenant sur les plateformes commerciales, à commencer par la nôtre, livreaudio.vusezvoix.com. On n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes quand même.
Oui.
Mais c'est vrai que vous allez trouver ça sur toutes les plateformes, évidemment, commerciales. Ce qui fait qu'on peut être écouté en ce moment en Europe. Et il y a des gens qui vont peut-être avoir... Parce que, entre autres, je voudrais signaler, je vais le redire en seconde partie, mais je voudrais remercier, entre autres, Apple Book. Figurez-vous qu'Apple Book a décidé de pousser un podcast précisément sur les podcasts Apple Book et il s'avère que c'est mon émission.
Wow.
Alors, si vous allez sur Apple Book et sur podcast, vous allez voir ma sainte face et c'est écrit « Des livres plein les oreilles » et si bien que n'importe qui sur la planète peut écouter... en français, évidemment, cette émission et toutes les autres qui fait la promotion et la part belle au livre audio, parce que ça n'existe pas ailleurs. Alors, nous sommes des précurseurs, mesdames, ici.
Je suis honorée, vraiment,
personnellement,
de faire partie de cette équipe du
départ.
Vous
pouvez signer le chèque ici, il n'y a pas de problème.
C'est ça. Avec plaisir.
Non, mais sérieusement.
Moi, j'avais pris la peine d'aller écouter une émission, moi, dernièrement, pour voir un peu comment ça allait. Et puis, je suis certaine que... D'abord, j'ai beaucoup de lectrices en France, en Suisse et en Belgique.
Oui.
Et puis, je suis certaine qu'ils vont aller écouter l'émission et ils adorent. Ils me disent tout le temps, j'aime ça d'écouter ton accent quand tu parles, tu sais, dans des reportages.
Vous avez votre accent que vous avez quand vous parler, oui. Là, c'est l'accent du Nord?
Oui, exactement. Mon accent québécoise.
Moi, j'ai l'accent montréalais. Si je me laisse aller, quelqu'un dit j'ai l'accent montréalais, mais je change souvent d'accent.
Alors, moi, comme je suis pas capable partout, encore de... Non, mais moi, j'entends l'accent québécois, point. Alors maintenant, quand on dit qu'il y a un accent à Québec ou ça, une accent à
moi, c'est ça.
Et puis, en Beauce, je...
Moi,
il nous reste 3 minutes, mesdames. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait, mais je ne vais pas dire ce qui se passe parce que c'est quand même un des gros éléments de la fin du tome 1 et c'est ce qui va faire en sorte que le tome 2 va ouvrir de façon différente. Alors, évidemment, je ne dirai pas exactement... On est dans un salon funéraire, mais je ne dirai pas ce qui s'est passé et je ne raconterai pas parce que sinon ça va pas être
drôle. Ça ne sera pas une surprise.
Pour les auditeurs. On écoute cet extrait.
Jean-Guy avait été heureux d'y croiser sa cousine Dominique, qu'il ne voyait pas très souvent. Chaque fois qu'il avait l'occasion de la rencontrer, ils avaient des conversations intéressantes. Elle représentait pour lui une source d'inspiration et il soulignait fièrement sa réussite sociale et professionnelle. À maintes reprises, il avait mentionné à sa conjointe qu'il aurait aimé avoir une sœur comme elle. Evelyne, pour sa part, s'était liée d'amitié avec Mariette, la compagne de Jean-Guy. Elles avaient toutes les deux des talents pour les travaux d'aiguille et elles avaient également la langue bien pendue. C'est ce qui les avait conduites à échanger des détails sur leurs familles respectives et sur leurs occupations de tous les jours. Jean-Guy a de la peine sans bon sens. Il dort quasiment pas.
Alors, on ne vous dira pas, évidemment, pourquoi il ne dort pas, ce pauvre Jean-Guy, mais il y a de très bonnes raisons de faire non seulement de l'insomnie, mais carrément des cauchemars. Colette Major-McGraw, vous travaillez déjà sur une autre série qu'on va enregistrer, j'espère, sur livreaudio.com prochainement.
Oui, oui, ça devrait aller début 2020.
Bon, Marie-Josée, de la job encore.
La job,
ça va me faire plaisir.
J'espère même qu'on va faire ma première série parce qu'elle a été très populaire, ça a été bien en Europe, tout ça.
Oui.
C'est à souhaiter.
On va y aller pour faire une série télévisée, ma chère collègue.
Oh, alors, oui, ça serait parfait.
Puisque vous êtes écoutés en Europe, dites-leur bien que Apple Book, ils diffusent l'émission. Oui. On est en podcast et tout. Ma sainte face sur Apple Book, écoutez, jamais j'aurais cru ça dans ma vie.
Wow. Eh bien,
oui.
Non, moi
alors,
non
c'est
plus.
Fantastique.
Jamais,
alors,
jamais.
Du coup, non, mais quand on dit que le livre audio est disponible maintenant, ben, c'est voilà. Oui. Alors, merci à vous deux, Madame l'autrice, d'être venue, Madame la lectrice aussi d'être venue. Ne ratez pas
un grand plaisir.
Les deux tomes de l'héritage du clan Moreau sur livreaudio.vuisezvoix.com ou une autre plateforme commerciale ou encore en format adapté, gratuit, via le SQLA. Merci mesdames.
Merci à toi.
Merci aussi.
Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, bienvenue à vous toutes et vous tous qui vous joignez à nous en cette seconde partie. On va partir à la découverte de nouveautés audio à vous glisser entre les oreilles. Si je vous dis, par exemple, les fables de La Fontaine, vous pensez bien sûr au corbeau et au renard, non? Ben oui. Non? Pas au corbeau au renard. Ok, alors laissez-moi deviner. La cigale et la fourmi, tiens. Ah, bingo. Eh bien, en voici deux versions. Celle très irrespectueuse de Pierre Perret, en argot français. Vous risquez d'en perdre des petits bouts, ça je vous le dis tout de suite. Et puis, celle très swingante de Charles Trenet. Tout cela pour nous amener vers une nouveauté audio très attendue. Les fables lues par Michel Bouquet. C'est nouveau, ça vient de sortir. Mais juste avant, on écoute ceci.
La cigale, reine du hit-parade, gazouilla durant tout l'été. Mais un jour, ce fut la panade, et elle n'eut plus rien à becquer. Quand se pointa l'horrible hiver, elle n'avait pas même un sandwich. À faire la manche dans le courant d'air, la pauvre se caillait les miches. La fourmi, qui était sa voisine, avait de tout, même du caviar. Malheureusement, cette radine lui offrit même pas un carambar. « Je vous paierai, dit la cigale, j'ai du blé sur un compte en Suisse. » L'autre lui dit « J'aurai pot de balle, tout en grignotant une saucisse. Que faisiez-vous l'été dernier ?» Je chantais sans penser aux pèses. Vous chantiez gratos, pauvre niaise. Eh bien, guinchez maintenant. Moralité, si tu veux vivre de chansons avec moins de bas que de haut, n'oublie jamais cette leçon. Il vaut mieux être impresario.
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a la crié famine chez la fourmi, sa voisine. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre fois d'animal. Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette empreinte. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, allez, dansez maintenant.
Ah, si monsieur Jean de La Fontaine savait tout ce qu'on a fait avec ses fables depuis le moment où il les a écrites jusque maintenant. Ces fables, on les attendait en audio, on les attendait par cette voix absolument sublime qui est celle de Michel Bouquet, même si elle est un petit peu vieillissante, vous allez l'entendre, il n'est pas tout jeune, hein, le monsieur, mais il y a toujours ce grain, ce métal, cette prononciation qui est vraiment très, très Michel Bouquet, qui ne lui appartient qu'à lui-même. Michel Bouquet, qui, pour les gens qui se demandent, est-ce que c'est le papa de Carole Bouquet ? Alors, pas du tout, ils n'ont rien à voir, ils ne sont pas de la même famille. Alors, cet enregistrement inédit de chez Audiolib rassemble une superbe sélection de fables de Jean de La Fontaine. Certaines sont très connues, comme Le Laboureur et ses enfants, par exemple, mais il y en a d'autres qu'on connaît beaucoup moins, comme Le Cierge ou encore Le Cerf se voyant dans l'eau. Et puis, on nous présente aussi des extraits du Songe de Veau, qui est une véritable ode à la nature. Ce sont des textes intemporels hein, que ces fables de La Fontaine, qui nous invitent évidemment, surtout lorsqu'elles nous sont déclamées, comme le fait M. Michel Bouquet, qui nous invite à savourer la langue française et la langue de La Fontaine, et puis qui nous invite à réfléchir aussi, Dieu sait, si à l'école ou même dans les cours de théâtre. Moi, je m'en souviens, au conservatoire, on a commencé la première année, on étudiait littéralement que les fables de La Fontaine. Pourquoi ? Bien, parce que pour la narration, pour les personnages et puis pour tout ça. Alors là, c'est Michel Bouquet, donc on va entendre, dirigé par le metteur en scène Ulysse Di Gregorio. Vous allez entendre aussi un intermède musical signé Mozart, interprété par le pianiste Mihail Roudy. Denis Podalydès, un auteur qui a l'habitude de lire des livres audio et qui fait beaucoup dans la lecture à haute voix, a déclaré « Cette voix de chair tendue, de métal et d'électricité dont il peut déchaîner l'orage d'une seconde à l'autre » en parlant de la voix de Michel Bouquet. Fabrice Lucchini, qui lui aussi a enregistré beaucoup les fables de La Fontaine, a quant à lui déclaré « Michel Bouquet a une voix infrasée et une intelligence exceptionnelle des texte. Alors voici un extrait, c'est une fable que j'ai choisie pour vous. Je voudrais vous préciser que si des fois vous vous procurez le CD de cela, vous allez pouvoir avoir le droit à une version PDF du livret qui vous est fourni absolument gratuitement. Alors c'est plutôt sympa, c'est vrai aussi d'ailleurs pour la version numérique. Voici non pas la cigale et la fourmi, comme je l'ai écrit sur ma feuille, c'est absolument faux, c'est la colombe et la fourmi, lue par Michel Bouquet.
Audiolib présente. Michel Bouquet lit Jean de La Fontaine.
La colombe et la fourmi.
Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, quand sur l'eau, se penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve, et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête. La fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole.
Et après la voix somptueuse de Monsieur Michel Le Bouquet, la non moins somptueuse voix de Monsieur Gérald Cousineau. Bonjour, Monsieur Cousineau.
Oh, la barre est haute.
Oui. Bonjour, Clotilde. Ça va bien, Gérald?
Pas mal.
Pas mal.
De mon âge, pas mal.
Bon, oui, bah ça c'est sur la vieille expression. Bah, pour l'âge, on passe plein, ça pourrait être pire, pas?
C'est vrai, ça pourrait être plus pire, vous avez raison.
2 milliards de battements de cœur. Quel drôle de bouquin dont vous allez nous parler aujourd'hui, Gérald.
Oui, de ce monsieur Jean Kikawamura. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis qu'il est japonais. Mm-hmm. Alors, la traduction française date de 2017. C'est un court roman, hein, ça fait à peine 150 pages. C'est un monsieur qui apparemment serait écrivain, on le savait, mais il est en plus cinéaste. Et le roman a fait un tabac, comme on dit en France. Il a fait un tabac au Japon, il est même devenu un film. Alors, 2 milliards de battements de cœur, vous savez, Clotilde, il paraît que c'est la durée de vie d'un mammifère. Disons qu'un homme qui se rendrait à 70 ans aurait dans sa vie autour de 2 milliards de battements de cœur.
Pas plus?
Et un éléphant. Oui, plus, bien sûr, s'il vit à 100 ans, s'il vit jusqu'à 100
oui,
ans.
Oui, non, mais c'est...
Un éléphant, lui, qui vivrait 50 ans, aurait à peu près 2 milliards de battements de cœur aussi.
Ah, ouais.
Donc, d'où le titre. Et nous avons un jeune homme qui est un facteur dans une ville japonaise, un jeune homme qui est le narrateur d'ailleurs. C'est un facteur et il apprend à 30 ans qu'il a un cancer du cerveau. On dit stade 4. Bon, il est condamné. Donc, il ne lui reste que quelques mois, quelques semaines, quelques jours, on ne sait pas trop. Or, un matin, il se réveille et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Son chat, qui s'appelle Chou, comme le légume, et un homme qui lui ressemble drôlement. En fait, c'est son sosie, c'est le diable en personne. Mmh. Or, ce diable-là, je le dis tout de suite, il est assez amusant parce que chaque fois qu'il apparaît dans le livre, il est affublé de Bermuda et d'une chemise hawaïenne pour le moins criarde. Et il a des verres fumés. Donc, on a un peu de mal à le prendre au sérieux. Là.
On est plus près de Miami Beach que de...
C'est vrai. Okay. Il est égaré sur la terre, mais il a beau avoir l'air un peu fou, il est quand même très sérieux. Alors, il va proposer au jeune homme un marché. Alors, si le jeune homme accepte qu'on fasse disparaître un objet de la surface de la terre, eh bien, sa vie sera prolongée d'un jour, de 24 heures chaque fois. Alors, le jeune homme accepte. Alors, la première disparition, c'est, ça va peut-être faire plaisir à quelques personnes, le téléphone. Tous les téléphones du monde disparaissent à la première journée. Je ne vous l'ai pas dit, mais les chapitres portent le nom de jour. On va se promener comme ça du lundi au samedi. Alors, le lundi, le téléphone disparaît. Le mardi, ce sont les films, car le jeune homme, c'est un grand amateur de cinéma. Eh bien, il accepte quand même que les films disparaissent de la Terre.
Oh, c'est terrible.
Or, à travers cette histoire-là, le chat, lui, un jour, se met à parler. Oh, c'est très amusant parce qu'il parle un peu à la façon dont on parlait au 17e siècle en France, dans Molière. Il va avoir des diantres. Étonnant dans un roman japonais.
Quand oui, c'est, des diantres, des fichtres.
Oui, et le jeudi, et là, ça va se corser parce que le diable en personne dit qu'il est prêt à faire disparaître les chats. Or, le jeune homme a un chat. Ses parents en avaient un aussi. Alors là, je ne vous dirai pas ce qui va arriver ensuite, mais là, il va être bien sûr profondément troublé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que pour prolonger ma vie, j'accepte que tous les chats de la Terre disparaissent? Oui, non, oui, non. Je ne vous dirai pas ce qui se passe, mais grosso modo, c'est ça le principe du livre. Donc, chaque jour, il y a un truc qui disparaît, et là, le jeune homme, c'est un prétexte pour que le jeune homme pense, mais au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça?
Bien sûr.
Est-ce qu'on a vraiment besoin de téléphone partout? Parce qu'on sait, on s'est rendu une dépendance bien souvent. Uh-huh. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cinéma? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ci? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Uh-huh. Donc, ça, c'est un peu le bon côté du livre. C'est que ça nous force à réfléchir. Mais qu'est-ce qui est important dans tout ce qu'on peut accumuler au jour le jour? Uh-huh. Et plus que ça, c'est que non seulement on s'interroge sur les choses qu'on accumule, mais on s'interroge sur les gens qu'on a tendance à consommer également. Et ça, c'est bien dans le roman, qui se veut, je dirais, une sorte de court traité de philosophie quotidienne. Parce que, au départ, ça part un peu farfelu, tout ça. Mais quand on y pense un petit peu plus, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens avec qui je me suis disputé, puis s'il m'arrivait quelque chose, je partirais, puis il y a quelque chose qui ne serait pas réglé. Bon, je résume à gros traits, mais c'est ça. Si on interroge, si on pense aux proches autour de nous, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, on est en chicane avec quelqu'un, c'est un peu important. Et qui sait si demain matin, on sera encore là. C'est vrai. Donc, ce roman-là a comme côté positif de nous interroger. Et au départ, c'est un roman comique au tout départ. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a des passages très tendres.
Sûrement.
Par exemple, quand le jeune homme pense à ses parents, ça m'a surpris. J'avoue, ça m'a même touché. Il y a un très beau portrait de sa mère, qui elle-même est morte d'un cancer, mais très beau portrait de la mère et très beau portrait de la mère avec le premier chat de la maison qui s'appelait Laitue. D'où le nom du deuxième.
Chou.
Mais parce que vous savez que le prologue commence par cette phrase, « Et si les chats disparaissaient? Que serait le monde sans les chats? Que serait ma vie sans les chats? Et si moi-même je disparaissais? » Voilà. Donc, dès le prologue, on parle des chats et j'ai envie de dire que les chats sont presque les personnages principaux de ce petit roman de Kawamura.
Et on sortait juste avant que vous n'interveniez en onde. J'ai fait un petit spécial sur les fables de La Fontaine parce que Michel Bouquet, le comédien, vient de sortir. Hein, c'est une exclusivité chez Audiolib. Quelques fables, évidemment, pas toutes. Mais on a pu en entendre un extrait. Mais finalement, ce dont vous nous parlez là, c'est une fable moderne.
On peut parler de fable moderne ou de conte philosophique. Et encore là, comme c'est très court, on peut très bien déguster ça une ou deux fois, pas de problème. Et si vous aimez les chats, je ne vous conterai pas la fin, mais si vous aimez les chats, vous allez être ravis parce qu'on en parle beaucoup. Et surtout, ce chat qui se met à parler à la façon de Molière, c'est assez comique. Merci.
Alors Gérald, on va rappeler le titre, c'est 2 milliards de battements de cœur. Là, je fais signe à mon... on peut partir là. Oui, c'est ça. Alors, et je vais vous l'appeler, c'est Kawamura. C'est bien ça, Kawamura.
Voilà. Genki Kawamura, donc c'est un court roman japonais qu'on trouve très facilement au SQLA.
D'accord. 2 milliards de battements de cœur, voici ceux que je vous propose maintenant, c'est Speak to Me. C'est un vieux succès des Pink Floyd.
Oh, en effet.
Allez, salut.
Au plaisir.
Au plaisir, Gérald, merci.
Thank you.
Bonjour, 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 bonjour Yannick.
Bonjour, comment allez-vous?
Mais bien, bien, bien. Ça fait du bien de se réécouter, de se remettre un bon vieux Pink Floyd dans les oreilles.
Oui.
Ça ne vous rajeunit pas, ça, madame.
Non.
Yannick, Amanita virosa, c'est un champignon, ça, c'est ça?
Oui, exactement. Ah, c'est un champignon qui est venimeux. Mm-hmm. Amanita virosa, ça signifie ange destructeur ou ange de la mort.
OK. Et c'est le titre d'un bouquin d'Alexandre Soublière que vous nous présentez aujourd'hui.
Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. C'est l'histoire de Winchester Olivier. C'est un jeune homme de 27 ans au passé trouble qui a créé avec Samuel Colt, un policier, la société Hyena. Et là, on voit Winchester, Colt, ce sont des noms d'armes à feu. Hein,
oui,
un petit clin d'œil là, là.
C'est vrai.
Donc, la société, l'entreprise qu'ils ont créée offre à de riches, très, très riches clients, les images des bas sexuels de la personne de leur choix. Ils installent des caméras, récoltent des images, leur remettent à leurs clients. Alors, à un moment donné, dans tout leur périple, il y a une fameuse Elsa qui va arriver, c'est une artiste gothique, et là, l'équilibre précaire dans lequel se trouvent les deux associés va carrément exploser.
OK. Quand vous dites équilibre précaire, vous parlez de leurs affaires qui ne marchent pas très, très fort ou de...
Non, leurs affaires marchent très, très fort, mais bon, on parle de jeunes hommes ou d'hommes qui sont assez explosifs. Hein, c'est des gens qui sont violents, qui ont eu des vies troubles. Donc, c'est plus l'entente entre les deux parce que chacun veut amener la société dans une direction, l'autre dans une autre direction. Donc, ça va mettre la bisbille là, dans ce duo-là.
Bon, alors donc, ils ont créé cette entreprise, qui est une entreprise de voyeurisme, finalement. C'est plutôt que d'être et de devenir des voyeurs, nous, on vous propose tout de suite de vous vendre des images. C'est bien ça?
Exactement.
Mais c'est tordu complètement?
Absolument. C'est totalement tordu. Là. Ils ont installé des caméras chez les gens. Ils vont faire de la surveillance pour capter des images, puis qu'ils livrent, là, je vous lirai un extrait bientôt, là, aux clients là, comme un paquet cadeau. Là.
Oh!
Écoutez... Oui. C'est un roman, là, moi, comme je les aime, c'est-à-dire qu'il nous brasse, il nous bouleverse, il nous bouscule, mais totalement, il réveille en nous cette voix-là là, qui veut hurler de rage, de douleur et d'indignation.
Oui, parce que quand je disais qu'on est dans le voyeurisme, on s'entend que c'est un livre très intelligent. C'est justement un livre qui nous fait réaliser à quel point le monde est tordu. Et même là, on nous plonge de l'intérieur dans ce milieu-là. Hein, c'est bien ça.
Exactement, exactement. Puis ça soulève énormément de questions qui sont importantes sur la violence, sur la quête du pouvoir absolu, sur l'amour, sur la morale et sur l'humanitude. Hein. Parce que c'est le fait d'être humain dans tous ses beaux côtés, mais aussi dans tous ses côtés qui sont très, très laids.
Les plus obscurs.
Oui, exactement.
Vous avez un petit extrait pour nous, Yannick?
Tout à fait. Je vous lis ça à l'instant. Haïna, c'est moi. Haïna, c'est Samuel. C'est l'œil qui vous guette, mais que vous n'apercevez jamais. On pirate tout. Téléphone, ordinateur, autoportrait nu, sexto, pensée. On loue un appartement permettant toutes les prises de vue imaginables. On peut s'en servir lorsqu'un client veut séduire une proie ou être au centre des ébats. On achète aussi des chambres d'hôtel, des toilettes publiques, des salles d'entraînement. Nos filets s'étendent à la grandeur de la perversion de nos clients. L'idée d'un projet de voyeurisme est apparue à la suite du démantèlement d'un réseau d'élèves du secondaire qui avait créé un groupe d'échange de sextos sur le web. Les garçons faisaient semblant d'être amoureux d'une fille à la fois, la convainquaient de se prêter à de la porn maison et s'échangeaient les images au moyen d'un forum. Les membres pouvaient ensuite voter pour élire le gagnant de la slot du mois, une mention symbolique, pas de prix concret, seulement l'honneur. C'est après un suffrage serré qu'un mauvais perdant a décidé de dénoncer les autres à la police. Sam m'a proposé d'évoluer en duo. Moi, j'ai ajouté l'esthétique. J'ai baptisé le projet, je l'ai enrobé. Je ne voulais pas faire partie d'une équipe clandestine s'il n'y avait pas de but plus spirituel. J'avais besoin d'une religion. Je voulais percer le mystère de la haute société. Il y avait un milliardaire que je connaissais un peu, Nico Sarin, mon ancien patron. À l'époque de sécurité KGV, des rumeurs couraient. Nico avait la réputation d'être un homme salace. Plusieurs des femmes qui évoluaient au sein de la compagnie se méfiaient de lui. Il a été notre premier client et nous a présenté une foule de ses amis. La combinaison était parfaite. Alors, je trouvais ça important. Écoutez, c'est un roman qui, quand même, si je ne m'abuse, sortait en 2012. Mais aujourd'hui, là, déjà depuis 2012, hein, ça fait juste 7 ans, les réseaux sociaux ont
explosé.
Ont explosé. Et ça nous fait réfléchir à tout ce qu'on met sur Internet qui ne s'efface pas, hein?
Non. Il y avait un papier très récemment d'ailleurs sur Tinder notamment et sur une écrivaine française qui a écrit un essai hein, sur le sujet en disant à Tinder rendez-moi tout ce que vous m'avez volé quoi, tout ce que vous savez sur moi depuis que j'utilise ça. C'est ça aussi hein, le voyeurisme. Yannick, c'est tout le temps que nous avons maintenant, mais je voudrais rappeler hein, le titre de ce livre que vous nous avez présenté aujourd'hui, Amanita Virosa, V-I-R-O-S-A, c'est d'Alexandre Soublière, c'est un Québécois hein, que je ne connaissais pas, très honnêtement, et puis évidemment c'est un livre qu'on peut retrouver en version adaptée via le SQLA, bien sûr. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission-là une nouvelle fois, Yannick. J'ai déjà hâte de vous réentendre.
Au plaisir.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Merci à vous.
Alors ainsi s'achève l'émission des livres pleins les oreilles de ce jour. C'était Clotilde Seille en votre compagnie à la réalisation et à l'animation. Merci beaucoup à Jean-François Roy. Et puis merci à mes invités Colette Major-McGrew, Marie-Josée Deslongchamps, Gérald Cousineau et Yannick Olassa. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle semaine. Mettez-vous le plus possible de livres entre les oreilles. C'est tellement bon. Salut tout le monde.